Toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CIS.
Ici Alex Burns, vous écoutez CISM.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques poussières de seconde. L'émission que vous écoutez est Frontières en santé et en médecine. L'objectif du programme est de contribuer à donner la parole aux acteurs et actrices de la santé publique à Montréal, au Québec et dans le reste du monde. Notre engagement est de donner à entendre tous ceux et celles qui ont quelque chose à dire sur les enjeux de santé, dans l'idée de contribuer aussi à renforcer la discussion entre différents acteurs, entre différents secteurs, entre différentes disciplines, mais aussi entre savoirs de continents différents, au-delà des frontières. Pour cette édition de votre programme, je reçois Guy Poulain, à titre de citoyen partenaire dans de nombreux projets en santé durable ici au Québec. Avec lui, nous allons évoquer son parcours en tant que citoyen qui participe à des tables de discussion sur des questions de santé. Nous allons aussi évoquer sa compréhension d'un domaine en expansion tel que la santé durable ainsi que les enjeux liés à ce thème dont on parle de plus en plus. L'un des points qui va mobiliser notre attention est aussi celui de la place de la démocratie en santé. Frontières en santé et en médecine, c'est aussi des thèmes musicaux pour agrémenter la discussion. Aujourd'hui, nous allons écouter de la pop avec des accents acoustiques. Vous écoutez la CISM, Frontières en santé et en médecine, reçoit le citoyen partenaire Guy Poulain pour une discussion autour de la santé durable. Entre autres, je suis William Baïha, bienvenue. Santé et en médecine sur la CISM, vous écoutez Beautiful Day, un thème inspiré de l'artiste américano-sénégalais Icon. Je reçois aujourd'hui Guy Poulain qui siège comme citoyen partenaire dans quelques institutions de santé au Québec. Avec lui, nous discutons plus tard dans le courant de l'émission des enjeux de santé au sens large et singulièrement de santé durable. Mais commençons par une simple question. Qui est Guy Poulain?
Vous trouvez ça simple comme question?
C'est tout un programme.
Oui, c'est tout un programme parce qu'on est multiples, les êtres humains. On est beaucoup de choses, mais disons que si on fait le lien avec l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, ben, je suis un citoyen partenaire. Ça veut dire quoi pour moi, ça? C'est que je crois profondément que la santé, dans le sens large du terme, on reviendra sur la définition de la santé durable, que la santé n'est pas seulement de soigner les maladies, n'est pas seulement de gérer des rythmes. Bien sûr, il faut soigner le monde quand ils sont malades, mais il y a toute l'organisation, de tout le fonctionnement social, l'organisation sociale, est-ce qu'elle favorise la santé. Puis à travers tout ça, bien, ce qui m'anime beaucoup, c'est que moi, je crois profondément à la démocratie, mais pas seulement la démocratie déléguée où on vote une fois aux 4 ans, mettre une croix sur un candidat ou une candidate, mais sur une démocratie participative. Je pense qu'il faut, comme citoyen, s'impliquer à tous les niveaux. Il y a plusieurs façons de le faire. Et je pense que cette parole citoyenne-là, bien, moi, je la porte. Mais je n'ai pas la prétention de parler au nom de tous les citoyens, là, c'est bien sûr, mais je la porte et j'essaie au maximum de la favoriser pour que de plus en plus de citoyens et citoyennes soient partout et que notre parole soit aussi importante que les données scientifiques, que les données probantes, qui sont très importantes aussi, disons scientifiques, les expériences des décideurs, des gestionnaires, des professionnels en général. Les savoirs de vie doivent se confronter positivement avec les savoirs scientifiques. Mm-hmm. Et moi, je me situe vraiment dans cet alignement-là. Alors, je suis quelqu'un qui était comme ça toute sa vie. Je ne suis pas juste depuis que je suis citoyen partenaire. J'ai travaillé une quarantaine d'années dans le domaine, dans le milieu communautaire. Donc, toute la notion là, des organismes communautaires en santé et services sociaux, mais dans d'autres domaines, en environnement, en culture, en loisirs, c'est ce qui contribue à transformer positivement notre société. C'est ce qui contribue à mettre en pratique cette démocratie déléguée. Alors, j'ai travaillé longuement avec ces organismes-là. Et évidemment, ce choc-là dont je parle, un choc positif, ben, dans les organismes communautaires, il y a des personnes qui y travaillent, généralement des gens qui sont qualifiés, diplômés, etc. Mais il y a aussi des bénévoles impliqués au niveau des conseils d'administration, au niveau des comités de toutes sortes. Puis le réseau communautaire est un mouvement où la parole citoyenne puis la parole scientifique des données se rencontrent. Puis ma foi, avec un bon succès, parce que on entend peu parler de scandales ou de problèmes des groupes communautaires. Pourtant, on parle de plus de 50 000 organismes à but non lucratif au Québec. On parle de plus de 1 million de citoyens, impliqués à un niveau ou l'autre. Et c'est un mouvement dont on ne pourrait pas se passer. Et on l'a vu dans la pandémie de la COVID. Le milieu communautaire a été important, même a été surchargé, je dirais, même dans cette pandémie-là. Alors, c'est moi qui contribue modestement à changer des choses par une implication citoyenne réelle et significative.
Vous, en tant que citoyen partenaire, donc on a essayé de comprendre un peu aussi, c'est-à-dire votre définition et votre engagement en tant que citoyen partenaire. Alors, comment est-ce qu'on arrive à se donner une telle mission qui n'est pas quand même quelque chose de facile? Ça représente, parce que vous avez une vie professionnelle, vous n'en avez pas vraiment tant parlé que ça, mais vous avez une vie professionnelle, vous avez pris votre retraite, mais ça, vous, quand on vous entend, c'est-à-dire vous êtes impliqué dans votre engagement de citoyen partenaire dans le système de santé québécois depuis quand même de longues années. Comment on fait pour arriver dans ce domaine-là, à se donner cette mission-là de participer et de prendre la peine et de se gêner à se confronter parfois à des pouvoirs qui ne veulent pas céder une partie de leurs avantages?
Ben, c'est un peu... Moi, j'arrivais à la retraite. J'ai commencé en 2011 à avoir des engagements concrets. Là. J'arrivais à la retraite, puis comme toute personne, je ne me voyais pas là, me percer, écouter la télévision là, à cœur de jour. Je me trouvais un peu trop jeune, puis j'ai besoin d'un peu plus de défis et d'enjeux comme ça dans ma vie. J'ai simplement vu dans le journal Le Devoir, un petit encore, où le commissaire à la santé ou au bien-être recherchait des citoyens et des citoyennes pour faire un forum citoyen pour l'accompagner. C'est écrit même dans la loi du commissaire à la santé ou au bien-être. Et c'était un forum de 25 personnes, donc un représentant citoyen des 17 régions administratives du Québec, plus 8 citoyens experts, médecins, travailleurs sociaux, infirmiers, etc. Et il m'a dit, si vous êtes intéressé, envoyez une lettre d'intention. Fait que j'ai envoyé une lettre d'intention et on a été plus de 400 personnes à envoyer une lettre d'intention. Ce qui démontre, puis je le cite souvent un exemple, que les citoyens et les citoyennes, si on leur donne une occasion d'entendre leurs paroles, ils ont envie, il y a beaucoup de citoyens qui ont envie de le faire, de donner du temps et de participer à l'édifice social. Alors, j'ai été choisi pour faire partie de ce forum-là. Je représentais la région de Chaudière-Appalaches. Puis j'ai même été élu président de ce forum-là. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est drôle parce que tout a déboulé à partir de là. Ben, il y avait une personne qui était médecin cardiologue, qui était citoyen expert, qui travaillait aussi à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et qui cherchait des citoyens pour être impliqués dans les divers comités de l'INES, donc un comité d'excellence en santé où j'ai siégé pendant plusieurs années. Et où, sur ce comité-là, j'ai rencontré M. Dumont, qui était le directeur scientifique du CERSPUL à Québec, qui est l'ancêtre de Vitam, qui disent bon, on va avoir des citoyens. Fait que c'est de bouche à oreille comme ça, où là, finalement, d'une implication à l'autre, je me suis retrouvé à être présent dans plusieurs organisations, puis même à un moment donné, à en faire un peu trop, parce que je suis retraité et j'aime ça être retraité. J'aime ça me lever le matin et pas avoir d'agenda. Mais des fois, à un moment donné, c'était trop, là. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'y ai pris goût. Puis c'est des forums que je connaissais peu. L'INES, le bureau, le forum le citoyen du commissaire. C'était juste la deuxième cohorte que je faisais. Fait que c'était quand même pas très vieux non plus. Puis toutes sortes d'organisations dans lesquelles je siège actuellement. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. J'y ai pris goût et j'y ai trouvé un sens. Mm-hmm. J'ai trouvé, voici un lieu, milieu de la recherche, un milieu que je connaissais très, très peu au niveau professionnel. C'est une des choses, d'ailleurs, que j'essaie de faire. Je trouve que le milieu communautaire n'est pas assez présent dans les recherches. On a beaucoup les cliniciens, les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins, etc. Mais le milieu communautaire est peu présent dans le monde de la recherche. Puis je trouve qu'il y a un savoir-là qui pourrait être fort utile à ce niveau-là. Alors, c'est comme ça que tout a commencé et tout s'est enchaîné. Dans ce milieu-là, c'est beaucoup le bouche-oreille, d'une implication à l'autre, maintenant on entend ton nom, puis là tu as un appel d'un chercheur, etc. Alors c'est un peu comme ça que le processus a commencé.
Alors, là ce que j'entends, c'est que vous avez travaillé, et puis on s'est rencontrés d'ailleurs lors d'un forum qui a été organisé par le FRQ, et vous avez été dans plusieurs organisations, je vous en avais parlé un peu... en filigrane là, donc l'une d'entre elles, Advitam, qui est un centre de recherche en santé durable, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pendant les 13 ans, parce que vous avez commencé en 2011, pendant les 13 ans que vous avez cette carrière d'engagement social et d'engagement bénévole communautaire, quels ont été, à votre avis, les principaux chantiers sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous avez trippé, où vous avez pris quand même du plaisir à travailler, j'imagine que la plupart, mais qu'est-ce qui pour vous a eu plus de sens pendant tout ce temps?
Ben, ça a commencé avec le forum, ce qui a été intéressant, le forum citoyen du commissaire. On a vraiment senti la part du commissaire, M. Sallois, à l'époque, qui accordait l'importance au forum, que c'était pas un alibi ou un prétexte pour qu'il fallait répondre aux critères de la loi, etc. Donc, on a senti cette attitude-là d'entendre la parole citoyenne puis de se laisser influencer par ça. Alors, ça fait que quand on se retrouve dans certains lieux où on a l'impression que cette ouverture-là est présente, on a l'impression que ça fait sens et que ça a une certaine utilité, ce qu'on fait. Puis ça, c'est important parce que s'il y a une chose que j'ai détestée, parce que ça m'est arrivé quelquefois et que d'autres patients citoyens que je connais détestent aussi, c'est d'être des plantes vertes. On déteste ça, là, comme, tu sais, c'est un peu à la mode maintenant, il faut cocher, on a un patient partenaire, on a un citoyen partenaire, on coche, on est correct. Ça va bien au-delà de ça, à ce moment-là. Alors, c'est sûr que le fait que ça fasse sens, le fait aussi que ça amène un changement de paradigme, où les premières fois que ça donne du sens, où tu as le bureau du commissaire, c'est quand j'ai été impliqué à Vitam. Et là, de sentir, il y avait un mouvement qui commençait avec plusieurs chercheurs, ce qu'on appelle l'aide à la décision partagée. Ça me parlait beaucoup au niveau de me dire, mais moi, quand je fréquente des médecins, des professionnels de la santé, je suis comme bien d'autres, là, j'ai vécu et j'ai vu encore parfois des soignants qui sont très paternalistes puis qui savent ce qui est bon pour moi. Un médecin sait ce qui est bon pour son patient. Alors que là, il y avait une autre vision qui disait, non, l'aide à la décision partagée, on est des partenaires. Moi, comme patient, avec mon médecin, nous sommes partenaires. Ça veut dire qu'il faut changer d'information, il faut respecter l'expertise de l'un et de l'autre. Il faut se rappeler que quand on a une maladie, on vit cette maladie-là 365 jours par année. Mm-hmm. Et on passe peut-être, quelques heures par année dans le bureau de médecin ou de spécialiste. Alors, c'est qui les spécialistes de notre maladie, de nos problèmes? C'est nous. Alors ça m'a beaucoup parlé, l'aide à la décision partagée. Ça a beaucoup fait sens pour moi. Puis là, ben, ça a été comme une suite logique de dire, ben, si on est des partenaires dans nos soins personnels, pourquoi on ne serait pas des partenaires quand vient le temps d'organiser des services dans un hôpital ou dans un CLSC, de réorganiser une urgence? Donc, on a vu des patients partenaires se faire inviter de plus en plus dans des comités de travail, dans des comités de fonctionnement sur l'organisation des soins, sur les orientations. Et là, ben, dans la même continuité, puis c'est toujours ça qui fait le sens pour moi, d'être citoyen partenaire au Centre de recherche Vital ou à la chaire de recherche, je peux en parler en détail tantôt, ben ça donne une vision maintenant plus large. Là, mm-hmm. c'est comme citoyen. Tu sais, la démocratie, là, dans, j'ai fait des racines grecques il y a bien longtemps, là, mais c'est l'organisation de la cité que ça signifie. Mm-hmm. Alors, il faut participer. Si on veut avoir une cité, un lieu de vivre ensemble, Dieu sait qu'on... Actuellement, notre vivre ensemble a mal. Là. On a des difficultés, surtout les sociétés occidentales, à intégrer un paquet de gens. Puis on a encore des relents là, de racisme, là, puis de rejet, puis d'intolérance. Là. Alors, c'est toute cette notion-là d'être toujours dans la notion, on participe, on est des partenaires, on est reconnus. C'est pas la dictature des citoyens, c'est la co-construction, c'est la co-réalisation. Ceci étant dit, il y a des patients ou des citoyens qui se sentent plus à l'aise dans un contexte de revendication. Et donc, il y a des organisations qui sont dans cette vision-là. Et c'est correct, on a besoin aussi de ça dans une société. Mais moi, je me situe plus dans le mouvement de co-construction, de co-réalisation avec les partenaires, avec le ministère de la Santé, avec la municipalité, avec le plus d'organisations possibles. Alors, pour moi, pour que ça fasse sens, puis le sens, c'est ça. C'est ce partenariat qui part du bureau avec mon médecin, mm-hmm. un partenariat où on va avoir au début décembre une rencontre internationale sur la santé durable, tu sais, où là, on regarde beaucoup plus largement notre modèle de société est-il favorable à être en santé? Et la question est non, notre modèle de société ne favorise pas la santé, au contraire, favorise la maladie. Je pourrais donner des exemples aux besoins. Alors, pour moi, c'est ça qui m'anime, qui est le lien commun entre toutes ces expériences-là. C'est tout sur une continuité, hein. Être patient partenaire, être patient à l'organisation, être citoyen au niveau de l'organisation sociale. C'est de la politique, mais pas de la politique partisane, là, c'est de la politique socio-économique, de se situer puis d'essayer de transformer nos modèles qui ne nous rendent pas service ben. Et on le voit notamment avec le dérèglement climatique.
Ouais, c'est la politique publique au sens propre. Hein. C'est l'action publique, pour dire simplement. Mais vous avez utilisé le terme plante verte, c'est-à-dire que vous n'aimez pas vous retrouver dans la position de plante verte. Est-ce que vous êtes arrivé, j'imagine que dans votre posture, vous êtes vraiment quelqu'un qui est proactif, donc même quand il y a des blocages, qui va essayer de trouver des moyens de les contourner, de pas forcer, mais d'amener la personne à dialoguer. Mais est-ce qu'il vous est arrivé des cas où vous êtes buté à la mauvaise volonté de dialoguer, de discuter ou...
Oui. Oui, parce que cette notion-là de décision partagée, de partenariat patient, partenariat citoyen, ça nécessite, c'est incontournable, ça veut dire partager le pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Être partenaire, c'est que je reconnais du pouvoir à mon partenaire. Mettons, mon médecin a un niveau de connaissance sur les données scientifiques, les données probantes que je n'ai pas, c'est sûr. Mais il n'a pas mon expérience, mon savoir expérientiel par rapport à mon problème de santé ou par rapport à ma citoyenneté. Alors, ça suppose donc qu'on se reconnaît et donc ça veut dire qu'on prend des décisions ensemble. Donc, on accepte d'être influencé. Les citoyens acceptent d'être influencés quand ils sont autour de la table avec des chercheurs, par exemple. Mais ça veut dire que les chercheurs acceptent d'être influencés. Et ça, en général, je dirais que ça va assez bien, mais c'est pas gagné d'avance à 100%. Et oui, il y en a qui résistent à ça. Il y en a qui sont encore dans une vision paternaliste. Je vais donner un exemple très personnel. Pourtant, Dieu sait que j'ai fait un bout de chemin là-dessus. Un médecin, je n'aimerais pas son nom évidemment, qui est ophtalmologiste. Là. Puis moi, je l'appelle un peu ironiquement docteur Imbu, c'est son nom de famille que je ne donnerai pas, parce que lui, il est dans la catégorie de ceux qui il sait lui. Il sait, ma pharmacienne ne sait pas, lui il sait, moi je ne sais pas, lui il sait. Alors oui, il y en a encore des gens comme ça. Par contre, chez les jeunes médecins, c'est des choses qui sont en train de changer parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait à Montréal, à Québec, où des patients partenaires sont parfois invités dans des cours de médecine, etc., pour vraiment avoir une vision différente de ça. Alors oui, ça existe encore. Moi, je dis souvent, parce qu'on me consulte souvent des gens comment intégrer des citoyens, puis comment les recruter, puis comment les soutenir. Je leur dis la première chose, c'est d'avoir une attitude. j'ai entendu récemment un citoyen permanent qui dit « Écoutez-nous pour comprendre. » C'est pas « Écoutez-nous pour cocher une case dans votre document ou dire « J'ai consulté. » Écoutez-nous pour comprendre, comprendre les besoins. Et on n'aura pas d'acceptabilité sociale si on ne fait pas ce virement-là. Puis c'est un des problèmes pour moi du système de santé qui donne une grosse machine puis une grosse bureaucratie qui perd un peu sa sensibilité puis qui perd un peu de son humanisme à travers tout ça. Ben, je me souviens d'avoir fait une intervention professionnelle il y a bien longtemps où des gens avaient fait des médecins ont fait une vidéo sur la compliance aux médicaments de gens qui avaient eu des problèmes cardiovasculaires. Et leur surprise, c'est que la moitié de leurs patients ne prenaient pas leurs médicaments. Alors que les données probantes démontraient clairement que ce médicament-là avait un effet positif là, sur ça. Mm-hmm. Et là, je leur disais, mais pourquoi vous pensez que les gens ne prennent pas leurs médicaments? Tu sais, ils comprenaient, il y avait la misère qu'on comprenne la question. Les autres, c'est logique. C'est comme si les êtres humains étaient des ordinateurs. Mm-hmm. Si je vous dis que A plus B égale C, ben, dites-moi pas que ça égale D. Là, je vous demande que ça égale C. Mais parfois, pour des gens, ça égale D. Parce qu'il y a d'autres choses qui interviennent que juste le cérébral, puis juste le... Tu sais, comme je vais pas très loin là-dessus, mais je donne juste un exemple. Moi, j'en prends les médicaments. J'ai pas de problème cardiovasculaire, mais des problèmes diabétiques. Bien, c'est un deuil, prendre des médicaments, quand on sait qu'on va prendre ça toute notre vie. Jamais on va parler de ça, moi, mais tu sais, t'es en santé, puis du jour au lendemain, tu prends les médicaments... Pas parce que tu as un problème ponctuel qui va disparaître. C'est une maladie chronique, tu vas en prendre tout le temps. Mais ça, ça a un impact émotif sur les personnes. Tu n'as jamais tenu compte, ou à peu près. Alors, dans ce sens-là, c'est ça un vrai partenariat. Je leur dis, vous êtes gagnant si vous créez un partenariat avec vos patients, si vous participez à des comités de travail, puis vous créez un partenariat avec des patients, des citoyens. Vous allez gagner parce que votre palette va s'élargir. Il va y avoir moins d'angles morts dans l'intervention. Il y a beaucoup d'angles morts à ce niveau-là. Mmh. Les patients, les citoyens le disent. Moi, quand je tombe sur un professionnel de la santé qui est humain, bienveillant, on a l'impression d'être tombé sur un gros lot tellement c'est rare maintenant.
C'est ça.
Alors que quand j'étais plus jeune, moi, c'était comme ça. J'avais pas l'impression que... Je suis sûr que ça s'est détérioré, ce niveau-là. Donc, le partenariat, c'est quelque chose qui peut aider aussi à humaniser et à rendre plus efficace le système de santé, à mon point de vue. Et de le faire travailler un peu plus en amont puis moins en aval. Là. C'est-à-dire, oui, soigner les maladies, mais... On sait que les deux tiers des décès au Québec sont liés à des maladies qui auraient pu être évitées par des changements de comportement ou bien par des changements sociaux importants.
Sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. L'émission est frontière en santé et en médecine. Mon invité est Guy Poulin, citoyen partenaire intéressé par les questions de santé et singulièrement de santé durable. Alors, nous allons discuter maintenant de la santé durable en tant que telle. L'un de vos engagements, on a parlé tout à l'heure du Centre de recherche en santé durable, VITAM, mais aussi la chaire de recherche en santé durable du FRQ, du Fonds de recherche du Québec, où siégeait en qualité de co-titulaire citoyen,
oui.
Entre autres du professeur Jean-Pierre Després. Alors, je vais poser encore une question simple, mais qui n'en est pas vraiment. Qu'est-ce que la santé durable? On a posé la question dernièrement au symposium qui s'est tenu à Longueuil, et il n'y avait pas de différence de définition, mais des différentes approches de la définition. Pour vous, ce serait quoi la santé durable?
OK. Peut-être juste une petite correction. La chaire de recherche en santé durable, on est 4 co-titulaires mm-hmm. parce qu'on a une antenne au Saguenay, on a une antenne à Québec, à Huitaine. Alors, il y a 2 chercheurs, Catherine Laprise et Jean-Pierre Després, et mm-hmm. 2 citoyens partenaires, Nadine Arbour et moi. Donc, on est paritaire. Et on me dit, je ne veux pas m'en flatter, c'est plus ça fait avancer la situation, que c'est la première fois qu'une chaire de recherche financée par le Fonds de recherche du Québec a des co-titulaires citoyens. Alors, c'est pas rien, puis et ça se reflète dans toutes nos activités. On est paritaire partout, les citoyens puis les professionnels. Alors, si on revient à la définition de la santé durable, plus je participe à des organisations, des symposiums, des colloques, des rencontres, des comités, où il y a plein de chercheurs, puis il y a plein de scientifiques autour de la table, puis plus c'est compliqué d'avoir une définition de la santé durable. Comme citoyen, là, c'est le constat qu'on fait. Quand les spécialistes se mettent à parler entre eux, là, on va parler une seule santé, la santé durable, la santé urbaine, etc., etc. Là, on dirait qu'il faut que tout le monde ait son concept particulier. Nous, on est allé, quand on travaille avec des citoyens, il faut que les choses soient accessibles, soient compréhensibles, soient vulgarisées et soient beaucoup plus simples. Alors, la santé durable, c'est assez simple, c'est à quoi on s'est accroché au niveau de la chair. La santé durable, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est pas nouveau. Les Grecs disaient ça il y a 4000 ans. Un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu et un environnement sain sur une planète en santé. Ça, cette définition-là, là, les scientifiques, tout à Kaby, l'Organisation mondiale de la santé, c'est trop simple pour eux autres. Alors, ils n'adhèrent pas toujours à ça. Mais quand on parle aux citoyens et citoyennes, puis on leur présente des définitions académiques de la santé durable, le seul de l'Organisation mondiale de la santé, entre autres, puis qu'on leur présente celle-là, ils disent, ils l'achètent tout de suite, ils la comprennent parce qu'elle fait sens au niveau d'un gros bon sens populaire. On se rend tous compte que si on n'est pas bien mentalement, physiquement, ça va se répercuter. On est tous conscients que si on vit près de la fonderie Horn qui nous empoisonne avec l'arsenic, ça va tuer notre santé. Puis on est tous conscients qu'il y a des dérèglements climatiques qui sont de plus en plus importants et qui affectent la santé. Quand ta maison est inondée, puis tu es dans le stress pendant des mois de temps sur le pays, comment ça va être compensé, puis ta maison va-t-elle être déménagée. Ça a des impacts sur ta santé mentale. Alors, dans la sagesse populaire, la sagesse citoyenne, tout ça est interrelié. Mm-hmm. Puis ça rejoint les gens, puis ça les enthousiasme, parce qu'une des choses que des gens reprochent maintenant au système de santé, c'est son côté ghetto, silo. Hein, si tu as 3 spécialistes, là, tu vas être sûr qu'ils ne se parleront pas, tu vas être sûr que les dossiers ne circuleront pas entre les 3. Mm-hmm. Et puis il faut que tu recommences ton histoire à chaque fois parce qu'il n'y a pas de circulation d'informations. Tu sais, moi, j'ai été hospitalisé une fois dans ma vie, là, puis j'étais aux soins intensifs, puis j'ai eu une radiographie pour les poumons. Puis à un moment donné, je n'étais plus aux soins intensifs, j'étais sur l'étage, j'ai eu une autre radiographie pour les poumons, mais ce n'était pas au même endroit. J'ai dit, mais pourquoi allez-vous comparer avec la radiographie que j'ai pris aux soins intensifs? Ah, non, c'est aux soins intensifs, mais on n'a pas de système de radiographie. Puis sur les étages, on a notre propre système. Dans le même hôpital. Hein, alors, donc, cette notion-là, cette définition-là que je propose et que les gens, les citoyens se relaient à ça, c'est justement d'avoir une vision plus globale, plus holistique, même si les gens n'utilisent pas ce terme-là, c'est un peu élitiste, là. Mais une santé plus globale, les gens sentent bien qu'il faut que ça se passe à d'autres niveaux. Je vais parler d'exemple tantôt, est-ce que c'est correct qu'une ville, par son plan d'urbanisme, permette à des restaurants, à la restauration rapide, de se situer à moins d'un kilomètre d'une école secondaire? Bien, on le fait. On le voit à Montréal, on le voit à Québec, on le voit partout. Alors que font des ados qui sont d'école secondaire, malgré les efforts que fait la cafétéria pour leur offrir faire une offre alimentaire plus saine, ben ils sortent puis s'en vont au McDo puis s'en vont au Burger King puis tout le kit. Mais ça, c'est nous qui avons organisé ça comme ça. Moi, je vais chercher mes médicaments à la pharmacie régulièrement. Dans ma pharmacie, moi, je suis diabétique de type 2. Dans ma pharmacie, ben, pour aller chercher mes médicaments, il faut que je passe devant le comptoir de confiserie, puis de chocolat. Puis les pharmacies vendent ça, tu sais. Puis c'est pas bon pour la santé, tu sais. Puis déjà, les épiceries puis les dépanneurs en vendent, mais une pharmacie, tu sais, on s'est organisé, je ne jette pas la pierre aux pharmaciens, c'est qu'on s'est organisé une société comme ça. Il n'y a pas si longtemps, les pharmacies vendaient des cigarettes. Moi, je n'ai pas connu cette période-là. Alors, c'est ça que je veux dire par organisation sociale qui ne prône pas la santé. C'est quand on a une vision de la santé durable, comme je l'ai présenté, ben ça nous dit, ah, est-ce que ça, cette façon de faire-là, et est-ce que c'est un milieu sain, ça? Est-ce que si tout va bien dans ma vie, puis que je suis en santé, puis tout le kit, puis la planète va bien, tout le kit, même si on sait que c'est pas vrai, mais que je vis dans un quartier où il y a des tirs en gang de rue régulièrement, je ne suis pas sûr que ça va être bon pour ma santé. Donc, les gens comprennent bien qu'on ne peut pas détacher puis couper ça en morceaux. Les êtres humains, on est une globalité. Alors, c'est à ça que moi, je crois beaucoup, la santé durable. Puis je dis souvent à mes amis chercheurs et compagnie, ben, si vous voulez faire des débats sémantiques sur la définition, allez-y, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais pendant ce temps-là, vous allez perdre des citoyens parce qu'ils ne comprendront pas. Moi, c'est un de mes choix de bataille, c'est qu'il faut rendre la science démocratique. Et donc, il faut la rendre accessible. Il faut arrêter de penser qu'un bon chercheur, c'est celui qui produit plein d'articles scientifiques dans des revues savantes en anglais qui sont lus par qui? Par d'autres chercheurs. T'sais. Et donc, qui sont pas, qui rentrent pas dans la catégorie de populaire citoyenne. Je dis pas qu'il faut plus le faire. Il faut que les connaissances circulent à travers la planète. Mais il faudrait qu'il y ait une stratégie de vulgarisation, d'accessibilité aux soins, aux diverses recherches, aux diverses connaissances, pour que le citoyen ordinaire puisse y avoir accès. Ouais. Comme ça, sa loi est extraordinaire là-dessus, il y a instauré. À un moment donné, il faisait un gros rapport sur la médication. On avait étudié ce dossier-là au forum. Et il y avait un gros rapport de 200 pages, il y avait tout. Là. Et il y avait un sommaire de 5-6 pages pour qui? Pour les groupes communautaires, pour les cliniciens sur le terrain, pour les citoyens, pour avoir accès à cette information-là. Mais c'est pas assez répandu. L'INES le fait pas assez, à mon avis. Ils produisent tellement de données, d'informations intéressantes, mais juste le titre de leurs articles ou de leurs choses, ils sont pas compréhensibles pour monsieur et madame tout le monde.
Je comprends très bien. L'un des objectifs de l'émission, c'est précisément ça. Parce que je me suis rendu aussi compte que ce que nous faisions à l'université, notamment en matière de santé, qui est quelque chose qui concerne quand même tous nos concitoyens, est relativement enfermé dans les murs de l'université, des facultés, que ce soit d'ailleurs en faculté de médecine ou en sciences infirmières, mais également en sciences sociales où on était censé quand même être un peu plus proche des citoyens, mais c'est toujours fermé. Je comprends que l'un des enjeux que vous avez, sur lequel vous avez beaucoup insisté, c'est donc l'enjeu de vulgarisation et d'accessibilité du savoir. Vous ne remettez pas en cause le savoir qui est fait à l'université, bien au contraire.
Au contraire.
Que c'est un savoir qui est utile, mais qui doit être mis à hauteur aussi, mis à hauteur des citoyens. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux liés à la santé durable que vous avez identifiés et qui, à votre avis, sont importants à adresser en ce moment-ci?
Un élément très important qui était aussi une faiblesse. Déjà, dans le réseau de la santé, c'est difficile de faire un travail interdisciplinaire. Hein? Les disciplines entre elles ont tendance à être un peu en silo aussi. Puis quand on parle de traitement de soins ou de prévention, de déterminants de santé, chacun travaille un peu de son coin. Et ça, c'est à l'intérieur d'une même entité. On parle des universités, par exemple, des hôpitaux, etc. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il faut que ce soit intersectoriel. Quand je parlais du problème tantôt des écoles à moins d'un kilomètre d'école secondaire, quand tu parles de ça à l'école, au service scolaire, qui était à la commission scolaire avant, tu vas te faire répondre « Ah, ça, c'est pas mon dossier, c'est la ville. » Puis là, quand tu arrives à la ville pour dire « Mais votre urbanisme crée des conditions défavorables à la santé. »« Ah, moi, je suis pas la santé, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de la santé. » Alors, les secteurs commencent à peine à travailler ensemble. Donc, quand on parle de la définition de la santé durable, ça implique une nécessaire intersectorialité. Il faut que les municipalités, il faut que la santé, les établissements de santé, les milieux scolaires, les milieux communautaires, etc., travaillent ensemble. On peut pas régler la santé durable dans le sens large que je l'ai apporté, qui est quand même un programme ambitieux. On peut pas faire ça par morceaux où les gens ne s'interconnectent pas ensemble. Alors ça, c'est un autre enjeu qui est fort important. J'ai notre antenne à Saguenay avec le Dr Laprise et Nadine. Ils ont moins développé l'aspect citoyen, mais ils se rattrapent. Mais par contre, ils ont développé beaucoup le volet intersectoriel. Puis ça, on le voit plus en région parce que c'est plus petit, puis les secteurs se connaissent davantage. En milieu urbain, Québec, Montréal, Sherbrooke, c'est vraiment difficile de briser les frontières et de travailler ensemble. Encore une fois, de partager le pouvoir, c'est ça que ça veut dire. quand on est là-dessus. Alors ça, c'est une autre dimension là, qui est très, très importante et qui fera que si on n'a pas d'acceptabilité sociale et si on n'a pas un travail des divers secteurs ensemble, ça va être très difficile d'atteindre une santé durable au Québec et on va être dans un contexte de toujours un puits sans fond de traiter les maladies, puis de plus en plus de gens malades. C'est ce qui fait que le docteur Després, là, qui travaille avec nous, il a fait un peu son chemin de Damas là-dessus parce que lui, ça fait 40 ans qu'il fait des articles sur l'obésité, sur l'activité physique et autres. Puis il dit qu'il n'y a jamais eu autant de personnes diabétiques au Québec. Mm-hmm. Alors pour lui, c'est un constat d'échec. C'est pour ça qu'il est maintenant davantage dans le concept de santé durable, puis moins avec, comme il dit, avec son cerveau blanc, puis son laboratoire, puis qui produisait des recherches, des données importantes, intéressantes, mais qui n'ont pas percolé dans la vie des gens. Et moi, j'aime mieux un chercheur qui va faire 20 articles au lieu d'en faire 800, mais qui ça va changer la vie du monde. Il y a toute la notion aussi, il y a tout un écosystème, hein, pour employer un grand mot, dans le domaine de la recherche, là, où faut produire, faut publier. Puis si on publie, on a plus facilement accès aux subventions. Puis si on a des subventions, faut publier. C'est comme une espèce de set. Moi, je leur dis, c'est correct, publier, là, mais on pourrait-il avoir une revue populaire au Québec en français où les chercheurs produiraient un résumé de 4-5 pages de leur recherche, puis que monsieur, madame, tout le monde pourrait les comprendre. Puis quand je dis monsieur, madame, tout le monde, je réfère aussi au secteur. Mm-hmm. On voit de plus en plus, il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des municipalités au Québec qui embauchent des conseillers scientifiques. Mm-hmm. C'est merveilleux, ça. Écoute, j'ai jamais vu ça de ma vie qu'une municipalité pense que c'est pertinent d'avoir un conseiller scientifique. Ben oui, il y en a quelques-unes là, qui en ont, je pense, à Longueuil récemment. Là. Alors, tu sais, on voit qu'il y a des gens qui cherchent à briser un peu les barrières des silos entre les secteurs. On a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
Ça, c'est sûr. La proposition que vous faites, je la retiens d'ailleurs pour moi-même, parce que il faut justement des publications populaires qui fassent le lien entre la science et puis le public. Je pense que avec mon profil là, je suis bien placé pour le faire. Parce que si je le fais pas, je vois pas vraiment qui va le faire en ce moment si à ma place. Mais je pense que c'est une proposition que je retiens pour moi-même.
Excellent. Il y a Rémi Quérion, le scientifique en chef du Québec, qui a dit il y a environ un an et demi, il faut que les chercheurs descendent dans la rue. Figure de style, là, pas pour manifester, là, mais pour se rapprocher, justement, rapprocher les données. Parce qu'il gère quand même un budget de 150 millions, le scientifique en chef. Là. C'est quand même l'argent de nous tous et nous toutes. Là. Alors, il faut que ça transparaisse sur le terrain. Mais aussi pour un autre motif dont on parle peu, mais qui a été très présent au niveau de la pandémie. Il y a malheureusement eu pendant la pandémie, puis ce mouvement-là existe encore, un mouvement complotiste, un mouvement qui fait fi de la science, qui fait fi des données, où c'est strictement des opinions. Mm-hmm. On pourrait parler d'un certain candidat aux États-Unis à la présidence, mais bref. Mais tout ça pour dire que, à mon avis, si on veut contrer la montée d'une espèce de philosophie populiste dangereuse parce qu'elle n'est pas basée sur les faits, ben il faut que la science soit beaucoup plus proche des gens. Mm-hmm. Ces mouvements-là complotistes, à mon avis, c'est parce qu'ils remplissent un vide. Alors, s'il y a un vide au niveau de l'accessibilité aux informations, ben la nature a horreur du vide et ces gens-là proposent des solutions à tout. Avec évidemment des données absolument épouvantables, mais les scientifiques, comme vous et comme d'autres, ont la responsabilité de vulgariser leurs données, leurs connaissances. Puis nous, comme citoyens, on a la responsabilité de s'impliquer avec les chercheurs, puis les scientifiques, puis les gestionnaires pour aider à avoir une proposition qui fait sens pour les gens. Alors, on a tous une responsabilité. Et ça, bien, si on ne le fait pas, bien, à la prochaine crise, parce qu'il va y en avoir d'autres, malheureusement, à la prochaine crise, bien, ce mouvement-là va peut-être prendre de l'ampleur. Puis il y a quand même eu des impacts négatifs. Tu sais, il y a des gens qui en sont morts là, de cette vision-là. Là. Moi, je connais des médecins sur les comités, tout ça. Là. Il y a un qui disait, écoute, il y avait un monsieur, là, Il a nié jusqu'à la dernière seconde qu'il y avait la COVID. Il en est décédé. Il a dit non, je n'ai pas, ça n'existe pas. J'ai été infecté par Bill Gates parce qu'il y avait une puce électronique sur mon ordinateur. Mais c'était pas juste ça, là. Il y en a eu plusieurs. Oui. Ça traduit qu'il faut s'en occuper. Puis s'en occuper comment? Bien, certainement pas rester dans cette tour d'ivoire. Puis les universités sont devenues des tours d'ivoire, malheureusement. Quand on organise une activité là, avec les citoyens, là, le dernier lieu où ils veulent que ça se passe, c'est à l'université. Ils vont préférer aller dans des centres communautaires ou des centres qu'ils connaissent. Mais j'ai rarement entendu un citoyen, dire « Ah, ben regarde, on pourrait organiser une réunion à l'université. » Non, c'est les chercheurs, oui, les professionnels, oui, parce qu'ils connaissent bien. Mais je parle de l'Université Laval parce que je suis de Québec, là, mais moi, j'ai toujours conseillé que l'Université Laval n'était pas assez présente au niveau des communautés. Là. Je sais pas si à Montréal c'est mieux, là, je l'espère. Là.
Non, bon, on espère aussi. Dans tous les cas, nous avons cette plateforme-ci où nous essayons de discuter, mais vous avez fait des propositions, mais j'imagine qu'il y en a encore davantage, des propositions intéressantes en rapport avec la dissémination de l'information scientifique et sa vulgarisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça me fait vraiment réfléchir plus en avant. Dans votre chaire, peut-être en un ou deux mots, vous travaillez sur quoi, sur quel projet actuellement en matière de santé durable?
OK. Alors, à la chaire, on a un volet important au niveau de notre financement pour soutenir la recherche, puis notamment pour développer la santé durable comme objet de recherche chez les jeunes chercheurs. Mm-hmm. Alors, on a des bourses qu'on offre aux gens qui ont la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat. L'an passé, on avait aussi des jeunes leaders en santé durable. Alors, c'est quand même des montants significatifs. Là, on parle de 45-50 000 $ pour que ce soit significatif, leur développement. Alors, il y a tout ce volet-là d'évaluation des demandes. On est en plein concours. Là. On a eu un concours l'année passée. On a distribué, si je me souviens bien, 270 000. Puis, cette année, on a 250 000 encore à distribuer. Faites à noter, bon, la fiche d'évaluation, la fiche de demande de l'étudiant n'est pas celle qu'on voit habituellement dans les grosses demandes au FRQIO. D'abord, c'est autour de 6-7 pages. Déjà, ça fait changement sur le volume. Puis, nous, on part avec deux principes. On veut que ce soit de la bonne science. Alors, évidemment, sur le comité d'évaluation, on veut des chercheurs pour s'assurer que tout ça est rigoureux puis fait selon les règles de l'art. Mais on a aussi deux citoyens partenaires sur le comité. Donc, c'est paritaire citoyen. Puis, ils sont là pourquoi? Ben, est-ce que ça devrait tomber, ce projet-là? Mmh. Est-ce qu'il y a des citoyens, des citoyennes impliqués dans tout le processus? Est-ce qu'il y a une stratégie de transmission de connaissances populaires? Puis donc, c'est ça que les citoyens présents sur la table. Alors, ces gens-là donnent de présenter évidemment un projet de recherche qui fait sens, mais aussi un projet qui est en lien avec la santé durable, mm-hmm. mais qui est concret, pragmatique, qui a des retombées et qui a une vision de vulgarisation puis d'accessibilité aux connaissances. Alors ça, c'est un volet important. On est en plein dedans. Là. Ça va aller jusqu'en novembre, je pense, pour recevoir les demandes. Mm-hmm. L'an passé, on avait quand même reçu 21 demandes. Cette année, on pense en avoir plus parce qu'on est davantage connus. Mm-hmm. Ça, c'est un volet important. Un autre volet important, c'est l'animation scientifique autour de la santé durable. Mmh. Alors, ça, c'est un volet où on bouge beaucoup aussi. Comme là, on est en train de préparer, on a fait une demande à l'ACFAS pour faire un colloque. On a fait un l'année passée aussi. On veut en faire un autre cette année sur la santé durable. On entreprend notre démarche pour une école d'été. On a eu une école d'été l'année passée au Saguenay. Cette année, ça va être dans la région de Québec. Alors, une école d'été qui vise les étudiants, mais avec notre perspective, vous allez comprendre rapidement que nous, Oui, il va y avoir des étudiants, mais il va y avoir aussi des citoyens, puis il va y avoir aussi des partenaires. C'est comme si ce qu'on dit en théorie, là, on veut le mettre en pratique, là, faire travailler ensemble des gens de divers secteurs, des étudiants, des citoyens, des gens de la ville, les gens du CIUS, la capitale nationale, etc. Alors ça, c'est un gros dossier parce qu'on parle d'environ 50 à 60 personnes là, qui participent à ça. À part ça, c'est déjà beaucoup de travail parce qu'on n'est pas une grosse équipe. On est les quatre co-titulaires, puis on a au Saguenay et à Québec une coordonnatrice professionnelle. Là. C'est elles qui sont plus au niveau de l'exécution, des opérations. Là. Puis on participe à toutes les colloques possibles. Comme le 3 décembre, on va être partie prenante dans le colloque international organisé par Alliance Santé Québec, la Ville de Québec et l'Université de Laval. On crée des liens avec l'Université de Lausanne, l'Université de Genève, etc. On va être présent. Là, on était au symposium sur la santé durable où on s'est vu d'ailleurs. Là. Alors, on saisit toutes les occasions d'animation scientifique pour que le message passe, mais qui fait vivre des choses. Puis, ce qui aussi nous demande du temps, mais ça booste un temps qui en vaut la peine, c'est toute notre gouvernance citoyenne. Comme je disais, on a les comités d'évaluation pour les subventions qui vont être paritaires. On a un comité conseil citoyen avec lequel nous, les quatre co-titulaires, on est comme l'exécutif, si on veut. Ben, on fait réviser toutes nos décisions puis nos discussions avec le comité conseil. Sur l'école d'été, le comité organisateur va être paritaire aussi, citoyen, chercheur, professionnel et autres. Même chose pour le colloque à la classe. Donc, on alimente notre présence, notre gouvernance citoyenne. Puis, on a 33 citoyens et citoyennes avec Saguenay, Québec et Gaspésie qui sont impliqués. Puis, ça fait plus d'un an, puis ils sont encore tous là. On est un petit laboratoire peu vivant qui démontre que quand on donne un espace citoyen réel, les gens, ils sont là, puis sont intéressés, puis ils sont persévérants dans leur implication.
Et je voudrais qu'on dise également un mot sur la démocratie en santé. Vous en avez parlé un peu au début de notre discussion, mais c'est également un des thèmes, comment dire, un fil conducteur de l'ensemble de ce que vous faites. Comment est-ce que... Et je voulais poser la question, comment est-ce que ça se manifeste, mais vous venez vraiment de le dire là, c'est-à-dire dans l'organisation des événements, dans l'attribution par exemple des bourses, c'est-à-dire dans la gouvernance, mais plus encore, est-ce que dans la démocratie telle que vous la faites, comment est-ce que vous allez chercher, parce que vous avez lu dans un journal et vous vous êtes venu vous intéresser et puis vous impliquer, mais comment vous allez chercher des citoyens qui n'auraient pas le réflexe de s'impliquer, par exemple les communautés migrantes, pour prendre que celles-là, mais également par exemple les femmes, des jeunes. Comment vous allez chercher ces nouvelles expériences pour les ramener et puis pour les écouter au sein du mouvement de la communauté migrante?
Alors, c'est à la fois simple et compliqué comme réponse. Simple dans le sens que c'est pas nécessaire d'avoir des stratégies de communication extrêmement sophistiquées et extrêmement coûteuses pour recruter les citoyens et citoyennes. Il suffit de prendre des contacts individualisés. Je vais donner un exemple concret. En Gaspésie, ben, je connaissais des personnes qui travaillaient au regroupement des organismes communautaires de ce coin-là. Puis je leur explique ça. Je donne un mot sur passer une table citoyenne en Gaspésie pour la santé durable toolkit. Ben, il y a une intervenante qui s'est sentie interpellée, elle a dit, je vais faire des contacts, puis je te reviens. Donc, elle a fait des contacts avec des personnes, leur en parler, qu'elle connaissait déjà. Je suis rentré en contact avec eux et ils sont devenus, ils sont encore là aujourd'hui comme citoyens pour la table de la Gaspésie. Je revenais de l'ACFAS l'année passée en train, je revenais à Québec, c'était à Ottawa l'année passée. Puis j'étais assis à côté de moi, il y avait une jeune dame qui avait encore sa cocarde, elle aussi, de l'ACFAS. J'avais pas pensé à l'enlever, ça a créé un lien de conversation. Ben, elle a débarqué à Drummondville, elle restait là. Ben, quand elle est parquée à Brownville, elle était membre citoyenne de la chaire de recherche. Donc, à un moment donné, il faut comme saisir les occasions. Il faut parler à nos proches, il faut parler à des gens qu'on connaît, beaucoup le bouche à oreille. Puis ça fonctionne relativement bien. C'est pas si compliqué. Si l'attitude est là, puis si on donne un lieu vraiment d'implication concrète. où c'est plus difficile, on a un défi au niveau des autant de la Chaire en santé durable que l'ensemble des groupes que je connais qui ont des patients partenaires tout le kit. La répartition homme-femme, si on regarde on fait le constat, là, je dirais sur une centaine de patients citoyens que je connais qui sont impliqués, là, le rapport homme-femme est assez égalitaire. C'est pas mal 50-50. Il y a une surreprésentation des retraités comme moi parce qu'on a du temps. Alors, il y a un défi de rejoindre des gens qui sont plus actifs sur le marché du travail. Et donc, ça amène comme conséquence qu'il y a plus de têtes blanches que de têtes brunes ou noires, là, dans le sens que les jeunes sont moins présents. On en a un peu, mais ils sont moins présents pour autant qu'ils devraient. Puis au niveau des communautés culturelles, mais aussi des communautés sociales. Tu sais, comme par exemple, on sait qu'il y a des gens qui sont désaffiliés socialement, des itinérants, des sans-domicile fixe, des gens qui ont des problèmes de dépendance au niveau des comportements prostitutionnels, etc. Donc, des gens qui sont un peu marginales, on a plus de difficultés à les recruter. Les gens des communautés culturelles aussi, les Autochtones et les Premières Nations. Ça, c'est un défi qu'on a. C'est comme si le mouvement s'est mis en branle. Il y a beaucoup de monde impliqué, mais là, il faut qu'on peaufine ça. Puis ça demande des stratégies plus sophistiquées, un peu plus complexes et qui demandent plus de ressources humaines. Puis là, on est un peu comme confronté à notre disponibilité de ressources humaines. Nous, demain matin, là, on pense qu'on serait capable, si on s'y mettait, puis si on avait les ressources pour le faire, on serait capable d'avoir une table de citoyens par région administrative. On pense pas qu'on aurait tant de misère que ça. On, en quelques mots, serait capable de faire ça. Mais on n'a pas les ressources pour les soutenir parce qu'il faut, même s'ils sont autonomes puis qu'ils ont le pouvoir, il faut quand même bien que quelqu'un anime la rencontre, faire les comptes rendus, organiser ça. Et nous, on donne des compensations financières pour l'implication citoyenne sous forme de reconnaissance. Donc, il y a une question budgétaire aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, le recrutement, il se fait tout seul, beaucoup par le bouche à oreille. Puis pour les communautés un petit peu plus difficiles, ben, il va falloir avoir une stratégie un peu plus sophistiquée. Puis on est là-dedans. Là, on s'est dit à la Chaire, on vient de faire une réunion du comité conseil citoyen. On s'est dit à la prochaine réunion, on se voit à peu près aux 3 semaines. On va mettre ça à l'ordre du jour, faire un petit brainstorming entre nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en tout cas à notre niveau, puis à notre capacité pour améliorer les choses. Parce qu'on voit l'intérêt, on a quelques personnes des communautés, puis on voit que le discours est différent. On a des jeunes, on a un jeune qui nous brasse sur l'environnement. Mais c'est correct, ça, on veut une diversité. Ça. Si on ne veut pas avoir d'angle mort, ben, il faut avoir une diversité de gens à tous les niveaux. Puis juste peut-être... dire ça parce que c'est important pour nous. Nous, on parle de citoyens, OK, et non pas de patients. Le patient, c'est quand on interpelle quelqu'un par rapport à sa condition de santé. Mais quand on parle de citoyens, on ne réfère pas à la notion juridique et administrative du mot citoyen. Pour nous, un citoyen, on a une vision, une définition sociale. C'est une personne qui reste ici au Québec, qui vit ici, qui travaille pas, qui a des enfants qu'il n'a pas, peu importe. On ne demande pas aux gens leur passeport avant de voir s'ils peuvent s'impliquer ou pas. Donc, cette notion-là nous intéresse peu, là, dans ce, sauf que si c'est une problématique que les citoyens veulent traiter, oui, mais on n'embarque pas dans le volet administratif et juridique. Il est tellement compliqué d'abord. Là, moi, je suis résident, puis demandeur d'asile, puis temporaire, puis lien avec la famille. Ça prend quasiment un avocat spécialisé pour se démêler. Alors, on a simplifié ça, nous. Tout le monde est citoyen. On a réglé ça. Alors, si vous voulez vous impliquer, bienvenue.
Cette édition de Frontières en santé et en médecine touche quasiment à sa fin. Merci à Guy Poulain d'avoir accepté mon invitation à discuter de l'approche citoyenne de la gouvernance de la santé publique ici au Québec. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous laisse en compagnie des amis Jimmy et Neutron. Si vous écoutez sur les 89.3 FM, retrouvons-nous jeudi lorsqu'il sera midi. Sinon, Frontières en santé et en médecine, c'est tout le temps sur le site de la radio CSM893.ca. Je suis William Baïha. Au revoir.
Votre animateur James Flamand. Chaque semaine, je programme pour vous une heure du meilleur de la musique autochtone du moment. Musique Première Nation, c'est dimanche à 10h sur CSM.
Salut, c'est Thaïs. Vous écoutez CSM. Novembre, Coup de cœur francophone présente 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Zeus, La Sécurité, Marjo, Alphonse Bisaillon, Brown Family, Le Belladone, Fleur de Peau, Élégie, Maud Sonny, Jacques Surette et beaucoup d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Faites des compositions originales en français ou en langue autochtone. Pour obtenir de la visibilité, gagner des prix, des bourses, faire des rencontres professionnelles et artistiques, il faut vivre l'expérience des Francouvertes. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour vous inscrire en ligne au francouverte.com. Les Francouvertes, le concours vitrine de la diversité musicale, présenté par SiriusXM.
Du 22 au 26 octobre, le Théâtre aux Écuries et le collectif Feuilles déchirées présentent « Avant que la dernière feuille ne tombe », une première création du collectif. Une pièce tendre et engagée qui nous plonge dans nos souvenirs avec comme fil conducteur nos grands-mères. Ces récits multiculturels puissants sont racontés par l'entremise du cirque, du théâtre et de la performance. Venez vivre une expérience interculturelle et intergénérationnelle. Infos et billetterie sur auxécuries.com.
Salut, ici Rose. Vous écoutez CISM.
Je sais que j'ai jamais pris mon temps, mais là j'ai plus le temps de voir, te voir, te voir.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Milo.
Tu as quel âge, Milo?
2 ans.
Et qu'est-ce que tu voudrais faire, Milo?
Ça, de la radio.
Sur CISM, il n'y a pas d'âge pour commencer la radio. L'appel de projet de CISM pour l'hiver 2025, c'est en ce moment. Si toi aussi tu veux rejoindre l'équipe de ta radio, envoie-nous ton démo et ton projet au plus tard le dimanche 3 novembre. Pas besoin d'être aux études, pas d'expérience requise. Pour plus d'infos, visite le cism893.ca à la section Implication.
Écoutez CISM 89.3 FM.